Ça va? Alors, ok, c'est cool, on est quoi? On est 40? C'est très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas être ici, qui ont été forcés à venir ici? Oui? Vous pouvez partir, parce que si c'est pour me casser les pieds toute la soirée, non, je veux pas. Donc là, je veux des gens qui ont envie d'être là, parce que sinon, on va pas s'entendre. Moi, je m'appelle David, j'ai 38 ans, donc je suis presque un vieux. J'ai vu Star Wars en salle, le premier, le deuxième, même le premier aussi. Empire contre-attaque, quoi. Donc je suis pas du tout de votre génération. Mais par contre, il y a un truc que je sais, c'est que je suis pas non plus de la génération d'après. Je suis parfaitement au milieu entre être un ado et être un adulte, là, en ce moment, dans mes jours en ce moment. Donc c'est intéressant pour moi de vous parler aujourd'hui parce que c'est une démarche qui va me ramener à mon enfance en fait pour essayer de vous articuler quelque chose que je vois comme un symptôme du monde dans lequel vous vivez, dans lequel je vis aussi avec vous, qui est l'acceptation de la différence, d'accord, et la manière dont on peut gérer la différence avec les autres, avec le monde, et voilà. Il n'y a pas du tout de de recette pour être fou. Voilà. Alors, je voudrais faire deux trois idées. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui se considèrent comme des artistes? Le même qui voulait partir. Très bien. Parfait. Non, mais t'as pas à rougir. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu considères que ta pratique de création, c'est quelque chose qui, dans ta vie, peut être ta vie? Faut voir. Ok, c'est une bonne réponse. Ok. Donc, moi, je savais pas du tout non plus si j'étais artiste ou pas. Et d'ailleurs, je sais toujours pas si je suis artiste. Je sais pas ce que ça veut dire d'être artiste concrètement. Mais par contre, à partir de 6 ans, moi, il faut que vous sachiez d'abord d'où je viens. Je suis un gros geek. Ok, mais genre, mes gros geeks, vous imaginez même pas, quoi. Moi, je suis né dans un monde qui avait pas Internet, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu naître Internet, j'ai travaillé dans Internet, dans les premières boîtes d'Internet, quand c'était rien du tout, j'avais déjà 18 ans, quoi. Donc j'ai vécu un monde où... mais par contre, j'ai complètement embrassé le monde d'Internet, pour le coup. Moi, quand c'est arrivé, pour moi, c'était la révélation, quoi. C'était genre, mais c'est ça, en fait, qu'il nous faut pour que ça, les choses fonctionnent, quoi. Donc si vous voulez me troller sur Twitter, vous pouvez. Y a pas de problème, je suis à fond là-dedans. Donc moi je suis un gros geek, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les années 80, et les années 80 c'était un moment très intéressant en histoire française, c'était un moment où la science-fiction et l'imaginaire étaient partout. C'est-à-dire que les chanteurs s'habillaient n'importe comment, se prenaient pour des super-héros, on avait des films incroyables qui étaient faits pour les mômes avec des extraterrestres dans tous les sens. Il y avait vraiment un accent qui était mis énormément sur tous ces trucs qu'on aime quand on est môme, quoi. Moi, c'était les monstres. Donc, moi, je suis né dans une société, dans une famille qui était extrêmement libre avec l'image, avec ces choses-là, et ma mère était responsable d'un vidéoclub, donc un des premiers vidéoclubs ever, d'accord ? Alors moi, j'ai vu la naissance du VHS, j'ai vu la naissance des cassettes, j'ai vu tout ça, quoi. Et ma mère avait le plus grand vidéoclub de Marseille. Et le mercredi, elle m'emmenait là-bas et elle me disait « Vas-y, choisis ce que tu veux ». J'avais 8 ans, quoi. 6-8 ans, ouais. Vois les films que tu veux. Alors évidemment, mon premier film, c'était Piranha 2, pour vous montrer l'état du gamin déjà à 12 ans, quoi. 8 ans... Piranha 2, c'était 12 ans. Voilà. Je sais pas quel âge vous avez. Vous avez quoi, 13-16 ans? 13-16 ans, c'est ça? 16 ans? 13, là-bas, il y a des gens plus vieux, non? 15? 14? Ok, bon, 13-16. On reste là-dessus. On va considérer que vous êtes tous du même âge. 13, j'en sais rien, je ne sais pas compter, moi. Ok, donc, j'ai vu plein de films de monstres, plein de films d'anciens, etc. Et j'ai commencé à me dire, j'ai envie de vivre cette vie, de voir des films, parce que je suis un gros geek, et que j'ai envie de voir des films, j'ai envie de revoir Star Wars 10 fois, et j'ai envie de vivre dans l'univers de Star Wars, et j'étais comme ça. Et j'avais un truc depuis que j'étais gamin qui était que je dessinais. Alors, je dessinais pas, j'ai jamais voulu être Michel-Ange, quoi. Mais je dessinais très maladroitement, mais c'était ça que je voulais faire de ma vie. Et j'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'étais une grosse flemmasse. Et que je passais mon temps à faire autre chose que ça. Mater des films, avoir des trucs, c'était pas du tout. Je suis toujours une grosse flemmasse, je vous rassure. C'est juste que j'ai trouvé des moyens de l'être dans le monde dans lequel on vit. C'est ça que je vais vous expliquer. Tout en étant fonctionnel. Et considéré comme un adulte. Ah, vous allez voir, c'est de la magie. Donc, Non, c'est vrai. Ok, donc moi j'avais le dessin, c'était un petit pouvoir, imaginez que c'était mon pouvoir secret, quoi. C'était mon super pouvoir, moi j'adore les super-héros et tout, et mon pouvoir c'était d'être dessinateur, et ça me permettait ben, d'être pas comme les autres, bilan, j'avais pas d'amis, et, mais tout le monde me foutait la paix. Et j'étais bien, j'avais des amis, c'est pas vrai, j'étais pas désocialisé, pas du tout, mais j'avais des amis un peu spéciaux, des gens, les gens qu'en général on aimait pas, les losers, voilà. C'est pas bien grave. Mais par contre, j'étais super content dans ma vie et tout. Et donc, j'ai grandi et moi, j'ai jamais voulu quitter ce monde des années 80 avec de la musique et des trucs et tout. Quoi. Et j'ai commencé à me dire qu'avec le dessin, je pouvais faire autre chose. Et j'ai commencé à raconter d'autres films avec mon dessin. Et mon premier film, c'était Bronco Apache 2. Donc, c'est un film Bronco Apache, c'est un film d'Indien, Burt Lancaster, si je me souviens bien. Et moi, j'avais fait la suite avec des extraterrestres qui arrivent et qui tuent tout le monde. Super. J'étais régalé et j'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est tout, c'est ça que je veux faire. Et alors là-dessus, évidemment, paf, l'école, et paf, la difficulté de dessiner quand on est à l'école. Et j'ai trouvé une solution à la fin de ma scolarité, donc quand j'ai passé mon bac, parce que moi je n'ai que mon bac. Hein. Voilà, j'ai pas d'études, hein, moi je sais pas ce que c'est d'études. Je suis pas un super exemple si vos parents ont la salle. Et là, l'école arrive, et l'école... voilà. Donc j'ai trouvé l'écriture. L'écriture, pourquoi ? Parce que l'écriture, déjà, les filles, elles aimaient bien ça, et que c'était plus simple que le dessin, les dessinateurs sont toujours considérés comme des gens un peu renfermés sur un mec, les écrivains sont plus... ils aiment bien discuter, ils aiment bien regarder, et tout. J'ai découvert le mot, et de fil en aiguille, en écrivant des histoires pour mes copines, qui étaient en fait, oui, des histoires d'amour qu'on aurait pu avoir, mais finalement, je prenais autant de plaisir à les raconter qu'à les vivre, ces histoires, quoi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire que finalement, écrire des romans, ça serait peut-être plus simple que de dessiner. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais très maladroit, j'étais très besogneux, je voulais pas une tâche, je gommais tout, et puis quand je gommais, le stylo noir devenait trop clair, c'était horrible, et vraiment, j'y arrivais pas, quoi. Par contre, je disais que j'étais dessinateur, je disais que j'étais artiste, j'étais, j'y croyais vraiment, c'était la vie que je voulais mener. Malheureusement, j'ai commencé à écrire, et ça a marché. Enfin, ça a marché, que les choses soient relatives, je suis pas du tout un auteur de best-seller, moi. Moi, je suis considéré comme ce qu'on appelle gentiment des écrivains cultes, voire underground, voire inconnus. ça dépend par qui. Voilà. Donc, je suis pas spécialement quelqu'un de connu. J'ai pas spécialement de recettes à vous dire sur l'écriture machin. Voilà. Par contre, je peux vous faire partager ce que j'ai un peu compris du fonctionnement de la réalité pour vous expliquer comment est-ce qu'on est capable de pas prendre ce mur de la réalité trop frontalement quand on a de l'imagination. J'ai écrit des livres, ça a marché, et puis j'ai eu une très grosse tragédie dans ma vie. J'ai perdu ma copine, mais de cœur, elle n'est pas morte, heureusement. C'est juste qu'elle est partie, voilà. Et ça a été très dur pour moi de vivre ça parce que je suis un romantique et que j'avais besoin de ça et tout. Et l'écriture ne me donnait plus les outils pour lui dire ma douleur. Enfin, quand je parle de l'écriture, c'est pas que je lui écris des histoires d'amour en lui disant, c'est pas Christina Ron Berzac, ce sont des histoires qui portent en elles ce que je ressens. Voilà. C'est à travers une histoire que je raconte ça. Et ça a été terrible ce moment-là, et je n'ai pas su écrire une histoire pour le dire. Je n'ai pas su comment rattraper ça avec des mots, en fait. Et je suis parti en Islande, c'est-à-dire je suis parti de loin de ma famille, loin des gens et tout. Je suis parti très loin, et je me suis posé dans un endroit où il n'y avait personne, qui était considéré comme un endroit féerique. Alors, par féerique, je veux dire que je ne crois pas aux fées, que les choses soient claires. Par contre, je crois à une certaine forme de magie de l'environnement dans lequel on se trouve et dans lequel on a des activités. C'est-à-dire que un sous-bois bien éclairé sera toujours plus mystérieux et plus intéressant peut-être que d'autres endroits. Voilà. Donc c'est plus une magie du monde autour de nous. Donc pour moi, il y avait des faits là-bas parce que les Islandais, eux, quand ils étaient plus vieux, ils avaient envisagé qu'ici, il y avait des esprits de la nature qui vivaient et qui étaient là pour interagir avec nous. Voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de fées. On peut les voir dans l'esprit, évidemment, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager qu'en fait, il y a un dragon qui se marre sur mon siège, là, depuis tout à l'heure, depuis 2 mois, quoi. C'est fort possible qu'il se moque de moi, quoi. C'est fort possible, à partir du moment où on a envie de le voir, ce dragon, il peut être là, mais ça reste une construction mentale, d'accord ? Je me suis retrouvé face à cette solitude en Islande, et l'Islande est un pays qui est assez dur, en fait, hein. C'est un pays de roches, de volcans, d'eau bouillante, le ciel peut changer du lendemain, il y a les tempêtes, en ce moment il y a une tempête, moi j'y retourne demain, il y a une tempête massive, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver là-bas vivant. Il y a des volcans partout, il y a des tremblements de terre, c'est un endroit qui fait très 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 peur. La première fois qu'on y va, on croit qu'on est dans le Mordor, quoi. Mais vraiment, D'ailleurs, il fait nuit tout le temps, on arrive, c'est des gouffres, c'est des déserts à perte de vue, de roches, de montagnes écartelées, c'est terrifiant, l'Islande. Et en même temps, il y a des aurores boréales. Il y a cette espèce de mariage de la fée, de la voilà, bon, c'est ça, c'est la nature, quoi, en fait. Donc, je suis allé là-bas, et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Eh ben, je me suis rendu compte que pendant 15 ans, depuis que j'avais arrêté le dessin, je dessinais des spirales partout. Je faisais que des spirales. Alors, je sais pas si vous avez vu Dark City, qui est un film un film de SF, vraiment très très bien. Si vous aimez la SF, si vous aimez le bon cinéma de science-fiction, c'est vraiment un film qu'il faut voir, qui s'appelle Dark City d'Alex Proyas, qui est un film qui date de. Qui parle de ça. Je faisais des spirales partout et je me suis rendu compte que je faisais spirales parce que c'était mon activité de dessinateur qui était là et qui n'arrivait pas à s'exprimer, quoi. Et c'était terrible. Et en Islande, bah, j'avais rien d'autre à faire, j'avais vraiment pas grand-chose, j'avais mon cahier, et je me suis mis à faire, de mes spirales, je me suis mis à faire les fleurs que je voyais autour de moi. Parce que bah, les fleurs, c'est les fées, les fleurs, d'accord? Il n'y a pas de fées, de petites fées qui vont arriver, qui vont butiner, on peut représenter la fée comme butinant à une fleur, mais c'est la fleur elle-même qui est intéressante, quoi. C'est d'où vient, enfin, c'est un objet, c'est quelque chose c'est une entité extraordinaire, une fleur, quoi. Et j'ai commencé à faire des fleurs avec ça, et j'ai couvert, 30 cahiers de fleurs, voilà. Pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand je suis revenu d'Islande, j'étais dessinateur. Enfin, je me considérais à nouveau comme dessinateur, c'est-à-dire que je me suis dit, oui, j'ai bien envie, je peux continuer à écrire des choses, etc. Mais par contre, je sais que moi, la manière dont je m'ancre dans le monde, la manière dont tous les jours, je me dis, je suis content d'être là, et je sais que si je continue à faire ça, je vais toujours être content, je serai moi-même, c'est par le dessin. Et d'ailleurs, je n'ai pas spécialement envie de faire du dessin quelque chose de commercial. Tous mes dessins en ce moment sont gratuits, parfaitement gratuits, parce qu'ils sont des dessins qui viennent de moi d'un coup, qui sortent sur la page, et qui existent en dehors de toute réalité financière, en dehors de toute réalité économique. Je fais un autre travail à côté. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour vraiment me maintenir en vie. Et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la manière dont je pouvais parler aux gens de ça. Parce que soit je deviens, à ce moment-là, je mets toutes mes forces à essayer de devenir un dessinateur, essayer de cadrer, parce que moi ce que je dessine c'est pas du tout cadré, hein, c'est du rêve en fait, à l'état pur, quoi. Du rêve, pas. C'est génial, c'est juste quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour comprendre comment fonctionne finalement la créativité chez en tout être, comment elle s'exprime, et c'est quoi la nécessité fondamentale de toujours défendre la créativité, de toujours défendre l'imagination. Alors attention, je ne dis pas que l'imagination, c'est plus important que le réel. Je sais que c'est un discours qui est souvent difficile à articuler devant des professeurs qui sont dans des cursus, qui sont dans des démarches établies, prouvées, qui sont dans de la pédagogie. C'est pas ça du tout. Ce que je veux vraiment dire, c'est que l'être humain, il aura toujours tendance à mettre des choses dans perspective. Et c'est notre capacité, c'est la capacité qu'on a à oublier ce pouvoir sacré qu'on a de mettre les choses en perspective autour de nous, de les mettre les unes à côté des autres et de les envisager les unes à côté des autres, qui nous empêche tout dérapage idéologique. Qui nous empêche de dire que la réalité c'est ça ou ça. Bien sûr que la réalité c'est celle qui fait mal. Ce principe de la réalité, c'est ce qui va vous tuer, qui va la douleur. Mais la manière dont on peut gérer ça dans notre vie, dont tous les humains gèrent ça, c'est par la tête. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on peut pas utiliser la créativité, le fun, l'envie de faire des monstres, l'envie de faire des trucs comme ça, pour essayer de finalement nous mettre à l'aise avec cette capacité qu'on a d'enchanter le monde autour de nous pour qu'il soit plus agréable à vivre, tout simplement, entre nous. Pour qu'entre nous, ce soit plus sympa de communiquer, pour qu'entre nous, ce soit plus sympa de se dire, on n'est pas obligé de se taper, on n'est pas obligé de se sauter dessus, on n'est pas obligé de se. C'est une forme de paix, en fait, quoi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à rencontrer des professeurs, j'en suis arrivé à rencontrer des gens comme vous, quoi. Et à essayer de donner quelques pistes. Alors vraiment, en une heure, je vais vraiment avoir du mal à rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Je vais essayer d'être extrêmement général. J'ai une demi-heure encore? Ouais, super. Je vais essayer d'être extrêmement général. Il y a des gens que vous allez probablement... Il y en a certains qui vont trouver ça ridicule ou trop compliqué ou bourré de questions en compagnie. Mais c'est pas, je ne vous demande pas de prendre le truc comme argent de comptant. Je vous demande juste de prendre le truc comme un processus de ce qui va vous permettre d'identifier en vous ce qui vous rend heureux. Et évidemment, moi, je me concentre sur la pratique artistique parce que c'est ce que je fais. Je suis pas gourou, je suis pas, je crois, je suis pas, voilà, je sais pas. ce que vous croyez être bon pour vous quand vous écrivez, quand vous dessinez, et pourquoi c'est important, et pourquoi c'est pas forcé de déboucher sur une carrière littéraire, ou sur une carrière de dessinateur, ou sur une carrière de quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous permet, tous les jours, de poser des choses en dehors de vous, dans le monde, et donc de le rendre au monde, quoi. De le faire apparaître, c'est de la magie. Et moi, j'ai toujours dit aux gens qui prennent la tête sur l'art, mais l'art, c'est quoi, c'est machin. Pour moi, l'art, c'est de la magie, c'est ça. C'est la seule magie qu'on a, quoi. C'est le fait de mettre, si demain je mets des trucs en 2D, là, des buissons verts en 2D sur la truc, on aura un monde qui sera pas le même que là sans les buissons verts, quoi. Mais c'est pas pour dire que c'est mieux les buissons verts ou pas, c'est juste qu'on est capable de faire ce travail-là, quoi. Et ce travail-là, on peut le faire sans buissons verts. On peut le faire juste avec nous. Donc je voudrais savoir combien parmi vous dessinent. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous demander de me montrer vos dessins, je veux juste essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes quand même assez nombreux, mais vous n'osez pas. Ok ? Très bien. Combien d'entre vous écrivent ? Et pas simplement des devoirs, pas simplement des dissertations, écrivent vraiment pour vous 2, 3, 4, c'est pas mal, on est quand même 5, on a quand même... Est-ce que certains d'entre vous se sont posé des questions où j'aimerais écrire mais je ne sais pas écrire ou j'écris mal? Ok, parce que c'est le moment de le dire en fait, hein, parce que là on est là pour décoincer ça en fait. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui idéalisent les gens qui écrivent et qui dessinent? C'est-à-dire qui en font des héros? Hugo Balagamba disait ça il n'y a pas longtemps, il disait ça sert à rien de respecter un écrivain parce qu'il est écrivain. Il est avant tout être humain, il est avant tout humain, donc c'est pour ça qu'on le respecte. Donc, toi, oui, quand même. T'as quand même des auteurs que tu considères comme étant des héros, des gens qui t'influencent tous les jours. Ouais, comme qui, par exemple?
Eiichiro Oda.
D'accord. Non, c'est bon. Je veux juste savoir qui il était. Okay. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce rapport avec la création et les gens qui créent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie des fois d'y aller? Pourquoi est-ce qu'on se dit que ça sert à rien? Pourquoi souvent, plus on avance, plus on nous dit, tu sais, ça sert à rien, il n'y a pas de débouché, ça sert à rien de continuer à dessiner si c'est pas pour quelque chose, si c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas voilà. Je vais vous expliquer dans un truc que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Moi, je suis un cancre, à la base. Je suis un cancre, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac, j'ai eu 10-1. Je n'ai pas... C'est pas que je suis un mauvais élève, ou je sais pas, j'étais le genre d'élève où on mettait toujours peu mieux faire, quel dommage, quel gâchis, peu mieux faire, mais oh là là, trop d'imagination. Mais j'ai toujours fait en sorte d'avoir 10-1. Ma note au bac, elle est optimisée pour avoir 10-1. C'est-à-dire que je suis allé dans la branche où je savais que j'étais bon en lettres, mais pas tout à fait pour être en section littéraire. J'étais pas bon en maths, mais en même temps, j'étais bon avec des statistiques. Donc je me suis trouvé un endroit où j'ai pu équilibrer mes déficiences, etc., pour obtenir un résultat de 1. Voilà, pour passer. Parce que j'estimais que c'était... mes parents m'avaient demandé que parce qu'il faut, parce qu'on apprend des choses importantes, parce que ça structure aussi... ça valide aussi une certaine étape du raisonnement et du fonctionnement dans le monde. C'est important que j'ai mon bac. Mais à partir de mon bac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire, quoi. Et moi, j'ai eu cette bascule à ce moment-là de me dire, oui, j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Et tout le monde m'a pris pour un fou, et ça a été très dur avec mes parents. Et enfin, je veux dire, c'est vraiment pas évident quand on est parent. Moi, je suis pas parent personnellement, mais je sais que pour des parents, c'est très très dur d'avoir des enfants qui sont prêts à tout, à prendre tous les risques pour pouvoir dessiner ou écrire tous les jours et faire ça de leur vie, quoi. Parce que la réalité économique de ces métiers, elle est dure. Elle est pas impossible. Moi, je connais des gens qui gagnent leur vie bien, et même ceux qui galèrent, ils sont quand même contents de vivre cette vie-là, quoi. Mais c'est quand même se mettre beaucoup, 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 beaucoup d'obstacles que de faire ça. Je suis pas là pour vous dissuader de le faire, hein. Je suis juste là pour vous expliquer le fait que il y a plus les acharnés d'entre vous qui y arriveront, quoi. Et c'est pas une question de public ou de talent. Tout le monde peut avoir du talent, mais c'est vraiment une question d'acharnement. Voilà. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, je pouvais pas fonctionner. C'est pas tant que j'avais envie d'écrire des livres que les gens lisent et de raconter des histoires et de faire croire aux gens des choses. Non, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de changer le monde. C'est-à-dire de changer la manière dont on affronte... Alors, affronter, c'est peut-être un mot trop dur, excusez-moi. C'est peut-être un mot trop guerrier, puisque c'est pas ça que je cherche. Engager, comme plutôt dans une valse, ou engager la danse, plutôt. Ou donc, et ça c'est mon dernier point, et on va parler du jeu après, d'engager les gens. Donc j'ai commencé à écrire. Quand j'ai écrit, je me suis rendu compte que je touchais des gens individuellement, je pouvais toucher des expériences, des gens qui partageaient ce que j'avais vécu ou pas, mais ça ne va jamais vraiment loin, parce que ça reste quand même beaucoup trop moi. Et c'est mon ego d'auteur, c'est mon égoïsme, mon individualisme, le fait que j'aime bien être regardé, que j'aime bien qu'on m'aime finalement, quoi, on désire d'être aimé tout simplement, qui m'a fait m'engager là-dedans en disant je veux être reconnu pour ça. Ce qui était une belle bêtise. Parce que je ne suis pas reconnu, suffisamment pour venir vous parler aujourd'hui, donc déjà c'est assez cool, mais c'est pas arrivé, c'est décevant, mais bon, pourquoi ? Peut-être que c'est bien pour moi, je ne sais pas. En tout cas, je me suis rendu compte que, visiblement, écrire des livres, faire juste des dessins et tout, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'avais besoin d'engager quelque chose de plus pour faire fonctionner l'imaginaire des gens, pour que ce muscle qui donc invente des choses autour des choses, qui donne du sens aux choses, qui fait très bien la distinction entre la réalité et ce qui est inventé, évidemment, mais qui se sert de ce qui est inventé pour gérer mieux les choses autour de soi, les relations avec les gens et tout, une espèce de fonctionnement rêveur, finalement, une forme de rêverie, comme ça, que l'art était engageant là-dessus, mais qu'il y avait mieux que ça, et que le mieux, c'est ce que j'ai identifié à l'époque comme étant la poésie. Alors j'ai envie de vous parler de poésie un tout petit peu, et de mon rapport à la poésie, parce que quand je vous dis, je suis cancre. Et moi, j'y connais pas grand-chose, vraiment. Moi, j'étais, je sais pas, on le lisait toujours, l'anthologie de la poésie française de... comment il s'appelait déjà, là, avec un vase à l'époque. C'est pas Sadoul, non, c'était qui faisait ça? C'était une horreur. C'était très dur, c'était pas la poésie. Pour moi, en tout cas. J'y connais rien, la poésie, vraiment. J'ai lu des choses, évidemment. Mais par contre, il y a quelque chose qui me fascine chez les poètes. C'est cette capacité qu'ils ont à dire le monde, à faire ressentir le monde plutôt que de le montrer. D'accord ? C'est-à-dire que un poète, finalement, alors quand on prend des poètes un peu radicaux, qui sont ceux bizarrement que j'ai le plus lus, comme Stéphane Mallarmé, qui s'appelait Étienne en fait, enfin pour les impôts en tout cas, Stéphane Mallarmé, qui est un poète très difficile à lire, réputé très difficile à lire, mais qui pourtant est fascinant, parce que ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment de restituer le monde tel qu'il est, et l'effet qu'il vous produit quand vous entrez en relation avec lui. Donc une personne que vous allez rencontrer ne va pas être racontée en termes de traits, va être racontée en termes d'émotions ressenties à son contact, à son approche. C'est extrêmement beau à lire, c'est extrêmement dur à lire, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai découvert Mallarmé, j'avais 30 ans. Voilà, donc vous avez, on a le temps. Mais Mallarmé a identifié un processus à l'œuvre qui est là très très important, qui est le fait de dire que finalement, on est tous différents, on a tous une expérience du monde différent. Même la manière dont on sent les choses, même si on est d'accord pour dire « ça, ça sent fort », cette nature du fort, elle est propre à tout le monde, et on a tous nos petites particularités là-dessus. Donc on est tous extrêmement différents là-dessus, et on essaie finalement de se mettre d'accord sur une réalité, pour dire, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'entre nous tous, il y a ça, quand même. Je veux dire, j'aurais du mal à vous dire qu'il n'y a pas de mur là, quoi. Il y a un mur là, d'accord ? Si je cours, je me le prends. Il est hors de question de nier ce mur, quoi. Mais la poésie, ça serait de dire que ce mur, finalement, c'est peut-être pas forcément qu'un mur, c'est ce que représente le bois pour un auteur de science-fiction raté qui vient là vous parler, et de l'émanation, comment est-ce que le fait qu'il est construit à partir d'une matière vivante, comme ça, reste, son énergie est toujours là avec nous, et qu'il a envie de nous communiquer quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est ça la poésie, c'est-à-dire c'est de délirer, de dire n'importe quoi, en fait. tout est possible. Après, il y a une manière de le faire. C'est le style, l'élégance, de dire je tire ces choses à travers moi, et des gens arrivent à te donner, évidemment, à toucher au sublime avec ça. Parce que le n'importe quoi, c'est ce qui n'est pas humain, donc c'est ce qui dépasse l'humain, donc c'est ce qui crée une espèce de possible incroyable dans l'univers, que finalement tout est wow, wow. Et donc là, on arrive au sens de l'émerveillement, et à ces choses-là. Et qui est une capacité fondamentale de l'homme, que l'homme sait très bien utiliser. Évidemment, c'est une capacité qui est très dangereuse. Vous vous rendez compte ? Et on l'a bien vu, quand on voit l'état de certaines positions devenues politiques, donc. Mais c'est pas le débat. Donc je voulais juste dire que c'est un instrument aussi dangereux. Quand vous allez passer votre permis, ça sera aussi dangereux d'avoir de l'imagination. Ça peut être aussi dangereux, parce que les gens peuvent croire à des choses qui n'existent pas. Ça arrive. Voilà. Et ça arrive, alors pourquoi on y croit ? Parce qu'on est plus ou moins sensible, on a eu des expériences douloureuses dans ce quotidien, on vient d'un monde pas facile, la réalité est trop dure et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps et on n'apprend pas. Et c'est pas le problème quand on est occupé à survivre. On n'a pas le temps de s'intéresser à vivre mieux. Ouais, ouais. Et la poésie, c'est que ça reste quand même un art. En tout cas, au moment où je l'ai découvert, ça restait pour moi un art bourgeois, enfin une espèce d'art bourgeois comme ça, qui était fait, qui servait pas spécialement à grand chose et qui permettait à des gens de poser avec des jolies écharpes comme moi. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus compliqué que ça. La poésie, elle est en chacun de nous, tous. Et qu'on a cette manière de voir le monde, et c'est ce qui nous permet de dire le monde aux autres, et donc d'être avec les autres, et donc d'accepter les autres de la même manière que nous. Et capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et de comprendre, d'essayer de comprendre sa souffrance, d'essayer de comprendre d'où il vient, et donc de ne jamais se braquer sur quelque chose tant qu'on n'a pas la personne en face, tant qu'on n'a pas son expérience, tant qu'on n'a pas les choses qui ramifient tout ça, quoi. Et c'est un truc qui me va vraiment bien et qu'il faut pratiquer ça. C'est très important, se mettre à la place des gens. On le pratique comment ? On le pratique en se mettant à la place d'autres choses, de petits animaux quand on dessine, de personnages incroyables qui traversent le cosmos quand on écrit des romans de SF, et de mettre le lecteur, et donc d'attraper le lecteur et de le mettre à la place, parce que c'est ça que fait un livre aussi, il vous met à la place, il vous prend, il vous met dans un univers, il vous fait vivre cet univers-là, quoi. Voilà. C'est assez incroyable comme truc, sauf que c'est pas inhérent au poème. C'est pas inhérent à la poésie, cette capacité de restituer ce que l'effet des choses et non pas les choses elles-mêmes. Ça s'appelle, pour moi, le jeu. Tout simplement. Et par jeu, je dis bien jeu. C'est-à-dire mettre en jeu quelque chose. J'ai vraiment envie de faire comprendre que être créateur, c'est avant tout mettre en jeu ce qu'on pense sur le monde et comment est-ce qu'on le remet là pour dire, regardez, ça pourrait être marrant si c'était comme ça. Et un jeu, c'est ça que ça vous propose, c'est ok, aujourd'hui on va tout jouer, on est tous dans un vaisseau spatial et on peut très bien faire une partie de jeu de rôle tous ensemble là à 40. Et ça va nous éclater parce qu'on va mettre en jeu des trucs sur, il va y avoir des techniciens, il va y avoir des pilotes, il va y avoir des trucs, etc. Et on peut très bien essayer de jouer avec ça et d'essayer de voir très sérieusement comment on peut faire tenir ensemble quelque chose qui n'existe pas, tout en sachant que ce n'est pas vrai, hein, c'est juste une simulation. Mais on va essayer d'être un technicien, on va essayer. Donc visiblement, il y a quelque chose comme ça qui existe dans la science aujourd'hui que je connais très mal. Enfin, j'ai quelques personnes qui le font, qui s'appelle l'instruction au sosie, qui est une espèce de se mettre dans la peau de quelqu'un. Le jeu de rôle a été infiltré un petit peu comme ça aussi. Alors beaucoup dans les univers, beaucoup dans les entreprises et les universités pour que les gens fonctionnent mieux en équipe et apprennent le leadership et aussi apprennent à se soumettre beaucoup et compagnie. Mais à partir du moment où ça peut rester un jeu comme ça et on peut engager ces jeux-là de manière plus libre en dehors des institutions et des corporations, on peut éventuellement retrouver cette espèce d'élan quasi primitif de l'homme. Parce que je suis désolé, les animaux jouent aussi. Et ça nous rapproche quand même vachement d'eux, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu des loutres jouer, mais c'est un truc délirant, quoi. Moi, ça m'a vraiment renvoyé à moi. Je me suis dit, mais à partir du moment où elles savent faire semblant de faire quelque chose, ça veut dire qu'elles sont conscientes qu'elles font semblant de quelque chose. Et rien que ça, déjà, c'est génial. Parce que ça veut dire que même si c'est des animaux et qu'ils pensent pas comme nous et compagnie, ils sont déjà capables d'avoir un fonctionnement intéressant, un processus intéressant. Et ça, c'est l'altérité, c'est comment on arrive à percevoir ça dans la nature et dans les autres, on est capable, nous, d'accepter plus de choses des autres. Voilà. Et donc, s'il y a parmi vous des auteurs bloqués, des gens qui se disent que oui, ça fait du bien quand même de dessiner, etc., et regardez le jeu, comment ça se passe. Et je ne parle pas simplement des jeux vidéo, attention. Il y a un énorme, énorme malentendu aujourd'hui sur le fait que le jeu est devenu jeu vidéo. Ah, les jeux, c'est pas bon pour les enfants, tous ces jeux vidéo. Non, mais les jeux vidéo, c'est quelque chose, c'est une forme de jeu. C'est pas le jeu, c'est pas ça, le jeu. Le jeu, c'est vachement plus... déjà, le jeu, c'est il y a plusieurs pour moi. Déjà, le jeu, c'est en vrai, aussi. Après, on peut jouer à plusieurs jeux vidéo, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour moi, j'ai toujours joué à des jeux vidéo avec des potes. Voilà. Mais pour moi, je préfère qu'on soit ensemble et qu'on fasse des choses. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses qui arrivent dans notre société aujourd'hui. On voit des jeux partout. On voit des gens qui s'expriment de plus en plus sur Internet parce qu'ils ont compris que finalement, il y avait un jeu avec leur site web et qui mettaient en route une espèce de processus de validation de leur travail, comme ça, même s'il n'y a personne qui regarde, c'est mon cas. J'ai un blog, personne n'y va, on s'en fout. Pourquoi je fais un blog? Parce que je joue avec mon blog à me faire croire que je le fais pour moi, en fait. Et je joue avec... Voilà, c'est la misère de l'auteur tout seul, chez lui. mais je fais aussi des jeux pour les enfants et tout. Et c'est tout récent, ça. C'est tout récent. C'est quelque chose qui arrive depuis une dizaine d'années maintenant en Europe, vraiment, où on commence à se poser des questions de comment est-ce qu'on peut envisager le jeu comme étant, non pas un apprentissage du réel parfait, loin de là, non pas comme une simulation parfaite qui nous permettrait de recréer dans le monde que ce soit parfait, non, mais comme un moyen de s'interroger tout le temps sur notre point de vue, sur ce que nous définissons comme étant un monde bon où vivre. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de créativité, le jeu peut vous permettre vraiment de débloquer tout ça. C'est super important, quoi. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, à 38 ans, je suis SDF aujourd'hui. Je suis pas dans la rue, hein. Je vis chez des amis, mais je veux dire au sens où je n'ai pas pu supporter de m'installer à un moment donné, par erreur probablement, parce que autour de moi, tout le monde sait bien grandir. Tout le monde a eu des enfants, etc. Et moi, j'en suis encore à faire des nuages qui parlent, quoi. Et à un moment donné, c'est bizarre. On se rend compte qu'on a une vie bizarre et on se rend compte qu'on aimerait bien pouvoir fonctionner normalement. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de fonctionner normalement et je vais finir là-dessus. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Super. Donc, le côté pratique, si vous êtes fou et si un jour vous avez envie de pousser cette créativité pour que ça devienne un moteur dans votre vie, ce qui est possible, hein. Moi, je crois qu'il faut... qu'il faut encourager, et je n'ai pas envie non plus de nier les gens qui ne le font pas, parce qu'il y a de la créativité qui s'exprime partout, et pas simplement dans l'art. Moi, mes potes sont artistes, la plupart, je considère que c'est les gens les plus créatifs de la Terre. C'est juste que tous les jours, ils se mettent en jeu, comme ça. Voilà. Et donc, où j'en suis? J'en suis à un moment de ma vie où j'ai un chat dans ma vie. Un chat. C'est mon chat. 12 cahiers, 3 pantalons, une paire de baskets, quelques t-shirts, et des vieux vinyles, une pochette de vinyle et une mallette de livres. Voilà. Ça, c'est ma vie matérielle aujourd'hui. Après 25... Ouais, alors attendez, j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'ai 38, j'ai créé 17 ans de travail. Par contre, j'ai un super compte en banque. Méga blindé. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, ma vie, j'ai besoin qu'elle soit en mouvement. Moi, je suis artiste, donc j'ai envie de faire en sorte que ma vie soit art et que tout soit beau et qu'on des gens incroyables et qu'on écrive des romans sur des royaumes perdus et qu'on rencontre des gens extraordinaires et qu'on ait la chance de parler devant des gens comme vous. Et c'est super. Sauf que ça gagne. Ça vaut rien. On peut pas vivre comme ça, on peut pas gagner d'argent comme ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte de trouver un moyen de fonctionner dans le monde où le monde d'aujourd'hui, le 21e siècle dans lequel vous êtes né, qui vous donne des outils incroyables pour faire passer des choses, pour travailler, le code, le journalisme, le blogging, la manière de faire du networking, les jeux, les bons jeux, qui vous permettent d'avoir une bonne vision systémique de la réalité et d'être capable, alors systémique, mot très important, les systèmes, c'est-à-dire la manière dont vous allez, dont le monde il est fait autour de vous tout le temps, c'est-à-dire bien regarder un monde, le monde autour de vous, bien l'observer, quoi. Et je me suis dit, voilà, je vais trouver une activité qui me donne un tout petit peu d'argent, que je vais mettre sur un compte en banque, que je vais faire fructifier. Et c'est cette activité-là que je vais considérer comme étant une fraction infime de mon temps, qui va me permettre de payer tout le reste. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne pourrait pas me payer une vie, peut-être, avec deux enfants, une voiture, un chien. On peut me payer une vie de liberté, où j'ai un billet d'avion quand je veux, si je veux, juste mon compte en banque, et très peu d'attachement par mon chat, qui est une sacrée crapule, vraiment. Et c'est vraiment voyager avec elle, c'est tendu. Mais ça se fait. Ça se fait, elle apprend comme moi. Et donc voilà, donc je pense qu'il est possible qu'à un moment donné, j'ai choisi de pousser ma créativité pour arriver à rester un enfant toute ma vie. Du moins, ou un ado, on va dire. Ça, c'est ce qu'on appelle un complexe de Peter Pan normal. C'est-à-dire de dire, de ma génération, de dire que les petits geeks comme moi ont un désir d'immortalité énorme, veulent s'amuser tout le temps, ont du mal à se concentrer. Moi, j'arrive pas à me concentrer sur un truc pendant plus de 10 minutes, c'est très très difficile. Hein. Est-ce que c'est possible? Je pense que ça l'est à partir du moment où on est discipliné. C'est-à-dire à partir du moment où on a une pratique. Quelque chose d'important à faire, qu'on soit artisan, qu'on soit dessinateur, qu'on soit technicien, où cette pratique-là enrichit ça, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de toujours rester en émerveillement face au monde, se dire, c'est cool, on a quand même de la chance, d'être là et de ne pas être né là-bas, de pouvoir faire ça et de pouvoir apprécier, de manger correctement, de pouvoir apprécier de l'eau, de pouvoir apprécier un oiseau. Je veux dire, c'est un fou, on les prend pour acquis les oiseaux, mais regardez vraiment des oiseaux, essayez de vous intéresser aux oiseaux, quoi. Mais quand je vous dis vous intéresser aux oiseaux, c'est pas d'ouvrir des cahiers, d'essayer de les répertorier de manière scientifique, sinon asseyez-vous devant des oiseaux et regardez les oiseaux, quoi. Et vous allez voir, si vous vous dites qu'un oiseau c'est un extraterrestre, c'est très rapide le changement, et d'un coup l'oiseau va être extérieur et ça va devenir une source d'émerveillement, ça va devenir mais comment ça fonctionne ce truc, et ça va vous apprendre des choses incroyables. Et ce petit mécanisme là, c'est une pratique, c'est un muscle qui se muscle avec le jeu, qui se muscle avec la créativité quotidienne. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider à fonctionner mieux si on n'est pas pareil que les autres. Enfin, quand on est un peu différent, on va dire, qu'on a des problèmes à gérer, qu'on a des problèmes à gérer les autres, qu'on a des... Voilà. Enfin, moi, c'est de là où je viens quand même un peu, quand même. Et je travaille avec des autistes, j'ai essayé de travailler avec des autistes, il y en a qui sont plus ou moins fermés à tout, mais il y en a qui sont quand même là, et c'est vrai que ça me passionne de dessiner avec des autistes, quoi. C'est quelque chose enfin, je suis pas sûr si je dessine avec eux, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette mise en route quotidienne, et j'insiste sur le quotidien, quoi. J'insiste. Prenez 10 minutes tous les jours pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment. En 10 minutes, un quart d'heure, rien que ça. Si c'est fait tous les jours, c'est cool. Voilà. Vous avez des questions ? Non ? Pardon ?
Non, mais comment vous avez découvert vraiment la grande passion comme ça ?
La grande passion ? Je sais pas, ça se vit une passion, ça se découvre pas en fait, c'est à un moment donné tu le sens. Il y a un truc qui sort et tu dis c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux être, c'est lui que je veux être. C'est pour ça que je posais la question sur les héros, c'est lui que je veux être. Moi je voulais être Batman. Non, c'est vrai. Je voulais être Batman quand j'étais tout petit, je voulais être détective. Je voulais être Sherlock Holmes après quand j'ai grandi. Oui ? Non ? Langage des signes ? Non mais ça c'est un truc super, le langage des signes, par exemple les dauphins. Regardez, c'est merveilleux, les dauphins, on leur apprend le langage des signes et ils n'ont pas de main. Alors ils nous comprennent, mais nous on ne fait pas l'effort de les comprendre. Et ça c'est ça, d'être l'autre, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de dire il y a peut-être besoin de... Il faut peut-être qu'on se... Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je parlais du langage des signes. C'est bon ? C'est cool, merci.
Vous avez encore du temps mais...
Ah, j'ai encore du temps ?
Oui, oui.
Oh, c'est génial ! Encore du temps ? Ouais, j'ai encore du temps. Alors, de quoi on va parler ? Combien de temps j'ai encore ? Je pensais que j'avais fini ? Hein ? 20 ? Waouh, super ! On va faire un jeu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait pas cool qu'on fasse un jeu ? Ok. Alors, ça va être... Alors, on va faire une expérience. Hein. Alors, c'est génial parce que j'ai pas souvent l'occasion d'avoir des gens qui peuvent faire un jeu. Alors, on va partir de cette histoire de vaisseau spatial, c'était pas mal finalement. Par contre, je vais avoir besoin que tous les gens qui ont envie de jouer au jeu viennent devant. Hein ? Ouais, ouais, c'est bon ici, t'inquiète. On va dire les 3-4 premiers rangs, après je considère que vous jouez pas et que vous regardez et que c'est n'importe quoi. Deux, trois, quatre, on est là, très bien. Donc, alors, bon, ok. Qui est le capitaine du vaisseau ? Le vaisseau est en flamme. Le vaisseau est en flamme, on vient de se prendre un astéroïde, il est en train de virer de bord, et moi, je suis juste le robot personnel... Le robot personnel du vaisseau qui est absolument totalement détaché de la situation, qui n'est pas humain, qui meurt, non, c'est pas grave. Moi, je suis juste le robot, j'ai là. Il va falloir vous organiser pour sauver ce vaisseau. Parce que là, il y a tout qui flambe et dans 20 minutes, il y a tout qui explose. D'accord ? Donc, c'est un peu tendu, quoi. Qui est capitaine ? Capitaine ? On a un capitaine ? Non ? Alors, écoutez, ok, on va voter. Qui a envie d'être capitaine ? Mais non, vous jouez pas. Tu veux jouer ? Viens jouer. Hein ? Qui a envie d'être capitaine ? Allez, on a une voix pour Nathan. On a une voix pour Nathan.
On en a deux.
Deux voix pour Nathan. 3, 4, 5. Oh là, plébiscite. Plébiscite. Capitaine. Capitaine, j'ai le plaisir de vous informer que dans 20 minutes, nous sommes tous morts. J'espère que vous savez quoi faire. Ok. Qui s'occupe des moteurs? J'ai besoin de 5 bons TECOS pour s'occuper des moteurs du vaisseau. C'est-à-dire ce qui permet au vaisseau d'avancer, hein. Ce qui nous permet de... Une technicienne, que des filles. Que des filles. Que des filles, hein, garçon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous mettez ensemble? Ouais, essayez de vous mettre ensemble, que je puisse voir, on va dire que les techniciens commencent par là-bas, que je puisse identifier, quoi. Qui est le second? Le second capitaine, ce soir-là. Numéro 2, c'est un honneur. Donc numéro 1, numéro 2, dans Star Trek. Ok, donc on est bien d'accord que la force du vaisseau, elle est là. Allez. Ça, c'est notre grande force. Vous êtes des TECOS aussi? Vous êtes tous dans les cales, à côté des réacteurs positroniques. Hein? Ok, donc alors là, on a un gars qui est au bar et qui est bourré au bar, tout seul. Parce que dans le vaisseau, il y a un bar, évidemment. Et lui, il est complètement désabusé, il est juste là. De toute façon, on va tous crever, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Hein? Tu veux le rejoindre au bar? Va te mettre au bar, alors il faudrait que... Va te mettre au bar, c'est cool. Ok, donc on a nos poivreaux, le serveur du bar. Qui leur sert? Qui leur sert à boire? C'est très important. Non, qui leur sert à boire? Il est où? Toi, t'es le barman. Donc c'est toi qui es garant de si oui ou non ils sont sous. Ok, non mais c'est normal, on est dans des situations de stress, les gens ont des choses stressées, les gens vont boire, les gens vont prier, et compagnie. Non, c'est normal. Hein? Quoi? Non. On reste politiquement correct, il y a des adultes dans la salle, j'ai pas envie de me faire griller, déjà que je suis bien grillé, c'est bon. N'insistons pas. ok, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les pilotes. C'est-à-dire ceux qui nous ont mis dans les astéroïdes. Messieurs? Il y en a visiblement deux parce qu'il faut un copilote. Tu copilotes? Non, on a des adultes copilotes. Allez, on a deux copilotes là. Il nous faut les copilotes. Alors, je voudrais bien le capitaine. Je voudrais bien le capitaine et le second à côté là. Attends, j'espère qu'on va avoir le temps de finir parce que j'ai un méga jeu en tête. Ce serait dommage. Ok. Donc, les pilotes. Alors, là, donc, les pilotes, le pont, et là, nous avons les sous-officiers. Les sous-officiers, c'est vous qui prenez les coups. D'ailleurs, oui, globalement, c'est vous qui exécutez les... C'est-à-dire qu'on va avoir un capitaine qui va donner un ordre, le second va vous le relayer, et vous allez le relayer à toute la chaîne jusqu'à là-bas, pour finir jusqu'au mètre bourré dans le bar. Donc en fait, on va faire un téléphone arabe. D'accord? Mais on n'a pas fini totalement de structurer notre vaisseau. Donc vous voyez, c'est un téléphone arabe contextualisé. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous savons que nous avons les sous-officiers là-bas. On va continuer par là, parce que finalement, le commandement vient de là-bas. Vous êtes les pilotes dans le vaisseau, mais si ça se trouve, ces personnes-là ne sont pas avec vous dans le vaisseau. Elles sont de l'autre côté de la radio. Qui a la radio? Mademoiselle? Radio? Donc, non. Très bien, ici, c'est toi qui fais la jonction entre les deux lignes. Entre la ligne des grands, de ceux qui prennent les décisions et qui ou là, et la ligne d'exécutants, pauvres exécutants et voire de touristes. Ok, donc il va falloir remonter un tout petit peu, il va falloir un peu remonter. Donc là, on a la reine, ma reine, majesté. Je vous en prie. Non, mais majesté, vous devez saluer votre... Allez, majesté, l'ordre vient de vous. Et en plus, elle a un truc anglais autour du cou et tout, je ne vous raconte pas. Donc c'est la reine d'Angleterre qui a envoyé l'USS Corona explorer les lunes de Titan à un moment donné. Voilà, quoi. Ok, pourquoi?
Non, forcément.
Pour le jeu, pour voir, ouais. Regardez, parce que là, le jeu, on a quand même... J'ai commencé à designer de... Ah oui, bien sûr, on m'en fout. Ok, donc ma reine a sa fidèle amie, sa meilleure amie depuis toujours. L'amie de son amie d'enfance, mais qui est devenue sa camériste. Qui s'occupe de vos affaires courantes. C'est pas une secrétaire, c'est plus qu'une secrétaire, c'est pas une secrétaire. Mais quand même, c'est la reine. C'est la reine. Et entre les pilotes et les capitaines, et l'assistante de la reine qui y a. Il y a la fille de la reine, la mère de la reine. C'est-à-dire... Non, c'est elle qui dit, oui, ma fille, c'est bien, mais en fait, non, ce qu'elle a dit, c'est ça. D'accord ? Ok. Donc là, on a la royauté, on a l'ordre, là, on a les pilotes qui vont, devoir exécuter, là, on a vous qui allez devoir travailler avec les autres pour savoir comment votre vaisseau ne va pas se planter. Ici, une radio qui va dire les ordres dans le vaisseau, c'est ça. Donc là, on a les moteurs, là, on a les gens qui ne sont pas capables de fonctionner. 2, 3, 4, il nous reste, jeune homme, quelqu'un, il nous reste une place là. Hakim, chemin-toi à nous, je t'en prie. Et alors vous êtes... Alors, entre les réacteurs et les ordres, il y a qui ? Il y a les soldats. Il y a l'armée. C'est-à-dire qu'il y a les gars qui sont là pour dire, écoutez, si ça part... Faut pas que ça parte en vrille. C'est-à-dire faut pas que les gens commencent à se taper dessus. Faut qu'il y ait des gens qui soient sûrs que... Mais vous pouvez être très dangereux aussi parce que vous êtes les seuls qui avaient des armes à bord. Donc, j'espère que vous savez ce que vous faites, quoi. D'accord ? C'est très important. Chacun a ses responsabilités, quoi. Ok. Donc, alors, si on veut créer un jeu à partir de ça, moi, j'ai pas du tout d'idée. Là, j'essaie de vous montrer comment on crée un jeu. Hein. On est bien d'accord. En 20 minutes, on n'aura malheureusement pas le temps parce qu'on a fait la mise en place est quasiment plus marrante que l'exécution du jeu. Mais c'est pour vous montrer comment on crée des jeux et comment, justement, on crée ce mécanisme d'interrogation de ce que je peux me mettre à la place de quelqu'un. Comment on pourrait envisager ? On a deux lignes comme ça, là. Deux lignes, tout de suite, on peut très bien, très vite identifier. On est tous contextualisés, vous êtes tous dans votre tête, là. Vous savez que vous êtes dans un vaisseau et que si jamais le capitaine ne fait pas ce qu'il faut, c'est fini, quoi. Et après... Donc, on peut dire que c'est... Ma reine, vous avez, de bon matin en vous levant, un message sur un message qui vous attend, qui vous dit que l'USS Corona a envoyé un SOS il y a une heure, en grande difficulté. Le bateau coule, c'est pour être le Titanic. Hein. C'est pareil. Le bateau coule. Et on attend de vous de prendre une décision pour que ça se passe bien. Mais il y a un truc, ça ne peut marcher comment ? Parce qu'elle, elle a tout intérêt à vous sauver, à moins qu'elle vous déteste copieusement. Elle sait quelque chose que vous ne savez pas sur l'USS Corona. D'accord ? Alors, avec un secret, on est capable de faire un jeu. Il suffit d'un secret. Il suffit d'une information qu'une seule personne connaît dans tout le jeu. C'est-à-dire, qui a tué quelqu'un. D'accord ? Donc, il y a une seule personne qui s'est qu'a tué, donc tout le monde doit savoir. Donc, avec un secret, on fait une histoire. Très facile. On fait un jeu, donc, apprendre le secret. Moi, le secret, j'ai deux moyens de lui communiquer. Soit je vais lui communiquer à l'oreille, comme ça je suis sûr que personne n'entend, soit je lui dis pas. Et c'est son secret à elle. Et c'est elle qui décide pourquoi le corona doit être sauvé ou pas. Il peut y avoir des exemples, hein. C'est-à-dire le corona revient peut-être d'une mission secrète et que parmi vous, il y a un espion que j'ai vu juste avant, et vous le savez pas. Peut-être ce mec qui est bourré au bar en ce moment et qui lui sait ce qu'il y a réellement dans les caves, dans les cales du corona. Et il est au courant, d'accord ? Peut-être que chacun d'entre vous, peut-être qu'on peut faire un jeu aussi, où chacun d'entre vous va être... le connaisseur d'une pièce d'information. Par exemple, je pourrais très bien dire, toi, hier, en réparant les moteurs, tu as trouvé quelque chose qui clignotait sur un des moteurs. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc pendant les discussions, quand vous allez devoir prendre des décisions, toi, tu auras ça en tête en te disant, oui, mais attendez, peut-être que moi, j'ai vu hier une bombe. Mais le problème, c'est que si le mec a posé la bombe, il est par là, il vaut mieux pas le dire à voix haute, parce que sinon, il sait que t'as vu. Ok ? Et voilà. Pas évident, quoi. Donc on peut travailler avec les secrets comme ça, on peut travailler avec un jeu tout simple, c'est-à-dire qu'on fait passer une information ici sur le vaisseau et qu'elle dit quelque chose à l'oreille et qu'on se sert du principe du téléphone arabe en termes de dispersion d'informations. On va juste faire un test de gameplay. Quand on crée un jeu, on fait ce qu'on appelle des itérations. C'est-à-dire que moi je suis incapable de vous dire si mon jeu il est fun là. En tout cas, ce que je peux être sûr, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, rien que ça déjà, quoi. D'accord ? Et on pourrait très bien s'arrêter là, et c'était peut-être ça le jeu, et en fait, on a bien rigolé, et en fait, peut-être que ça va créer entre vous une connivence par la suite qui n'était pas là avant, qu'importe. Peut-être juste un truc humain, comme ça. C'était cool de réagir. Le gameplay, c'est quoi? Le gameplay, c'est-à-dire, c'est comment on va mettre en œuvre ce principe d'information. Donc, on peut se servir de jeux qu'on connaît déjà. On va faire un test, et c'est en testant au maximum quel genre de jeu correspond à notre délire qu'on va peut-être pouvoir arriver à un jeu génial qu'on va travailler pendant plusieurs semaines pour arriver à un truc, on se dit, oh, la semaine prochaine, ce que j'ai envie de faire, c'est de récupérer 13 potes, et on va faire, avec 13 potes, on va se faire un truc comme ça, on va se faire un truc comme ça. Moi, je faisais ça dans la cour d'école avec mes potes, et on se créait des vrais jeux où on se mettait en condition de quelque chose. On n'a pas besoin de déguisement, on a besoin de rien. C'est uniquement du jeu, parce qu'on s'intéresse au gameplay et pas au contexte. C'est le gameplay qui est important. Donc on va faire un test, juste pour voir si ça peut marcher. Marraine, vous avez le droit de dire n'importe quoi à votre secrétaire. Et on va juste faire un test de gameplay pour voir si sur deux rangs, avec une perdition d'informations qui va être assez énorme ici globalement, je pense, on est capable d'arriver chez le soulard. J'ai le dernier soulard. C'est lui, mais encore mieux. Lui, il est vraiment... Il est peut-être même dehors, le vaisseau. Lui, c'est peut-être le mec qui est en train de travailler sur la coque du vaisseau avec son truc pendant, pour essayer de réparer les réacteurs pendant que vous êtes tous en train de vous cracher, quoi. Et donc, on va juste tester. Moi, ça m'intéresse vachement de faire ça. De voir si l'information se dilue au fur et à mesure et à quel moment elle change. Parce qu'à partir de là, on va être capable de voir... peut-être qu'on mettra certaines personnes avant d'autres et qu'on... On va voir. Donc testons, s'il te plaît. Alors là, évidemment, vous avez les sonneries qui brûlent, il y a le vaisseau qui brûle, il y a tout qui est rouge, on est en système de sauvegarde totale, il n'y a plus de potes pour partir, tous les riches du vaisseau se sont barrés, il n'y a plus que vous, quoi, si vous êtes l'équipage. 6 minutes ? Ok, on s'arrête là. D'un coup, il y a le capitaine qui reçoit l'ordre. Capitaine, je vous en prie, levez-vous. Et vous révélez, pour la première fois, à tout l'équipage, l'ordre qu'on vous a donné.
Un bébé est caché et sa maman l'a trouvé.
Tu veux te rasseoir ? Donc là, on a un premier point. Qui est le bébé ? Il est où le bébé ? Un bébé caché. Donc peut-être qu'il y a eu une histoire pas possible entre plusieurs personnes ici et qu'un bébé héritier de la reine. Oh, c'est ça. C'est sûrement ça. Il y a parmi nous un héritier caché de la reine et c'est pour ça que la reine veut que le vaisseau s'écrase. Parce que l'héritier, il est bâtard. Et elle veut pas, il peut pas rester en vie, elle est obligée de cracher le vaisseau. Elle n'avait pas prévu ça, mais il se trouve que le vaisseau est en train de se cracher. Elle va dire, ah, la grâce de Dieu, qu'il se crache. D'accord. Donc, là, c'est... Ah, j'ai plus de temps. Donc là, ce qui est intéressant en termes de jeu, c'est qu'on s'est arrêté à un moment donné et qu'on a, dans le jeu, introduit une nouvelle élément d'information qui va nous permettre de mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit et qui nous permet, derrière, de raconter notre expérience de jeu au fur et à mesure. Ce principe, on l'a fait. Je vais être obligé d'arrêter, hein. Je suis désolé, sinon ils vont me chasser à coups de pied. 4 minutes. Ouais, je suis désolé, je peux rien. Et ça, ce qu'on a fait là, tout simplement, je l'ai fait avec un réseau spatial, j'ai fait des trucs, parce que voilà. C'est un processus mental, en fait, que vous pouvez tous accomplir très facilement, que tout le monde peut accomplir, tout le monde peut se faire ça. C'est une capacité, c'est un pouvoir de l'humain. Très simple. Et il suffit juste de mettre les formes dans un ordre intéressant, en tout cas qui a du sens, et d'infiltrer dedans des éléments d'information pour discuter et pour mettre en jeu les points de vue, pour mettre en jeu les réalités, pour construire au fur et à mesure un raisonnement. Et ce raisonnement sera confronté à d'autres raisonnements, qu'ils soient scientifiques, etc. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le jeu peut changer le monde, loin de là, mais il peut vous changer vous. Et notamment, votre difficulté à être dans le monde, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez continuer à faire du sport. Voilà. Salut. Thank you.